Chien noir des 70s, Led Zeppelin. Feuilleton en 15 épisodes. Préliminaire 5, La folie Yardbirds. Comment d'un erratique groupe de second plan peut naître un monstre absolu de gloire et de musique ? Les Yardbirds, ce n'est pas la préhistoire de Led Zeppelin, mais bien leur laboratoire. L'histoire commence en 1963. Au Station Hotel de Richmond, banlieue sud-ouest de Londres, le dimanche après-midi, un producteur, Giorgio Gomelski, invente de couper la lumière dans la salle lorsque le groupe joue. Et le groupe, qui s'appelle les Rolling Stones, invente de jouer pendant 15 ou 20 minutes le même morceau hypnotique, Crawdaddy. C'est la fureur. Alors les Stones laissent tomber Gomelski et commencent la carrière qu'on sait. Gomelski doit embaucher pour le dimanche suivant un groupe tout neuf, mais qui fait la même musique. C'est les Yardbirds. Leur guitariste a 17 ans. Ses parents ne tiennent pas à ce qu'il entame si vite une carrière professionnelle. On le remplace par un autre fidèle du marquis, Eric Clapton, ça marche. Seulement Clapton est un puriste. On enregistre un premier 45 tours, mais Clapton refuse qu'on l'entraîne ensuite vers les tubes et démissionne pour rejoindre John Mayall. Suivant sur la liste, Jimmy Page. Mais Page a déjà connu autrefois la vie des groupes en tournée. Il n'en veut pas. Il gagne sa vie en studio, au service des autres, très confortablement. C'est lui-même qui propose à Gomelski son copain d'enfance, Jeff Beck. Avec Jeff Beck, les Yardbirds se réinventent. Un acrobate de la guitare, un tripoteur de son, une performance visuelle. Jeff Beck, reconnaissant, offrira à son copain, à son retour de sa première tournée américaine, une Fender Telecaster de 1959, que Page peindra de motifs psychédéliques et qu'il utilisera longtemps. Seulement Jeff Beck n'est pas d'un caractère facile. Carrière honorable, mais secondaire, voilà ce qui s'annonce. En fait, comme pas mal d'autres groupes de ces années 65-67, on passe son temps entre studio et tournée, mais les Yardbirds ne font que ramasser les miettes des gros. Jimmy Page, ces temps-ci, il dira plus tard qu'il était devenu tout ce qu'il souhaitait ne pas être. Quand Glyn Johns lui avait proposé la première fois de venir enregistrer en studio pour un nommé John Gibb and the Silhouettes, le spécialiste de guitare électrique polyvalente à Londres, c'était Big Jim Sullivan et lui seul. Mais Big Jim ne fournit plus. D'autre part, si on donne le choix au client, Big Jim peut se faire payer plus cher. Ça l'arrange lui aussi. De toute façon, il garde un avantage, c'est que Page ne sait pas lire les partitions. Au début de chaque séance, il doit partir s'asseoir dans un coin avec sa guitare acoustique, le temps de reconstituer les accords. Mais bientôt, quand un groupe arrive en studio, la question c'est « T'avais qui pour la guitare ? Big Jim ?» ou Little Jim. Ça ne va pas tout seul pour autant. Les Kinks, par exemple, sont déjà bien célèbres. Et Jimmy Page, il leur semble l'avoir connu au berceau. Quand ils arrivent en studio, découvrir qu'un autre va jouer la guitare à leur place et un batteur enregistrer la batterie à leur place, c'est vexant. Les maisons de disques ne s'embarrassent pas de telles pratiques. C'est la rançon pour vendre, dit-on aux artistes.
To relieve all the good times that I've had.
L'astuce de Jimmy Page, c'est de jouer exactement le même riff que le guitariste du groupe, et du coup le doubler d'une nappe identique, puis d'une troisième. Le son n'a plus rien à voir. Des fois, il y a des étincelles. Parce qu'au marquis ou en club, à Kingston, Page aura dit à quelqu'un sans faire attention « Hey, mais c'est moi qui joue là !» Et il n'est toujours pas possible aujourd'hui de démêler, sur les premiers disques des Who, sur ceux des Rolling Stones, s'il est présent et ce qu'il fait exactement. Il a appris à se taire. Sinon, ça risquerait d'être un peu nauséeux pour pas mal de gens, dit-il. Alors une journée ordinaire, c'est rendez-vous à 14h au studio IBC pour un solo. Et puis être à 17h au studio Olympique pour soutenir une chanteuse avec orchestre. Il jouera comme ça avec Joe Cocker, Zem, Tom Jones, Cliff Richards, plus toute cette nébuleuse, The Primitive, Mickey Finn, The Authentics, Bobby Graham, Dave Berry, The Talisman, Pretty Things, lui-même Jimmy Page n'en tiendra pas la liste. Il s'est doté d'une guitare fétiche, une Gibson Les Paul de 1947, aux frettes un peu limées, aux cordes ultra souples, et qui est un peu comme le piano Steinway de la guitare électrique, qu'il appelle Black Beauty, beauté noire, comme une fiancée. Il introduit de nouveaux sons, et un jeune technicien de la marine qui s'ennuie dans son labo lui rebricole les pédales d'effet du commerce. La première pédale wah-wah, c'est eux deux qui l'inventent. Jeff Beck aura la seconde, et Jimi Hendrix est la troisième. D'ailleurs, Eddie Kramer, le jeune technicien, quitte la marine pour se vouer au service d'Hendrix. La Royal Navy, ça mène à tout. Page préférerait qu'on n'en parle pas trop de ses 3 ans de studio. Pourtant, quand il compose pour Marianne Faithfull des chansons déviées de celles de Joan Baez, ce n'est pas sans une idée derrière la tête. C'est ça qui le travaille cette année 66. Le son folk, Dylan, Johnny Mitchell. Il cherche lui aussi la mine d'or. Quand une jeune Allemande à la voix caverneuse s'arrête provisoirement à Londres sur le chemin d'Amérique, il la repère, l'emmène en studio. Nico chante, Page joue de la guitare 12 cordes, mais l'heure, pour Nico, ni pour Jimmy Page, n'est pas venue. Et pourtant aussi, quand Johnny Hallyday ou Françoise Hardy enregistrent au studio Olympique, Page jouera pour Eddie Mitchell, Michel Polnareff, ce qu'il offre aux yéyés français, c'est quasiment le germe du Zeppelin. À tout casser, en bon français, c'est déjà du hard rock. Donc, Jimmy Page s'ennuie et trouve désagréable que des types qui en savent bien moins long que lui en guitaristique récoltent 1000 fois plus en voyage, jeunes groupies et argent trébuchant. Il a cette réputation-là, Jimmy Page, même de son mentor, Peter Grant. Quelqu'un qui voudrait se débarrasser de Jimmy Page, dit-il, n'aurait qu'à lancer une pièce de 5 pence devant un autobus, à Piccadilly. Alors, quand Paul Samuel Smith, le bassiste des Yardbirds, les quitte pour incompatibilité d'humeur avec Jeff Beck et va jouer avec le chanteur Cat Stevens, Jimmy Page, prêt à tout pour quitter la vie de mercenaire, du jour au lendemain apprend la guitare basse. Ce n'est pas si difficile à un guitariste comme lui. Et le remplace dans les Yardbirds. Dans un groupe, dit Jimmy Page, on peut se laisser aller, donner plus de soi-même. Moi, j'en avais assez de l'ombre et du service des autres. Je devenais rassis comme du vieux pain, moi. Et puis cette réflexion qui aura ses conséquences pour Led Zeppelin. Après avoir joué pendant des années en sourdine, je me demandais ce que ce serait de jouer sur scène, très fort. J'avais peur de rater. La guitare basse, je m'étais amusé 2 minutes sur une basse. Mais au bout de 2 heures de répétition, on était à faire le mardi soir du marquis. mot-clé de cette saison, c'est psychédélique. Une musique flottante, qui expérimente, oublie la durée. Jeff Beck est de plus en plus difficilement manœuvrable. C'est un inventeur, mais un singulier, un solitaire. Au Carousel Club de San Francisco, ils se brouillent une fois de plus avec leur chanteur, Keith Ralph, et ne se présentent même pas au concert. Moi, je n'étais pas vraiment prêt à faire rugir une guitare solo, dit Page. Mais ce soir-là, le pas est franchi. Le timide Little Jim, l'homme du second plan, le musicien invisible, s'est incarné en guitariste de démonstration devant foule ébahie, dans l'immense bruit qu'on peut tenir avec la seule saturation d'un accord quand basse et batterie vous suivent. La guitare avec l'archet, les distorsions, c'est ce soir-là. Le pas est si bien franchi que désormais les Yardbirds sont un groupe à deux guitares solos, jouant à l'unisson, essayant des effets stéréo depuis les deux bouts de la scène et se défiant de leur virtuosité personnelle. Cela durera trop peu de semaines. On n'a aucun enregistrement du duo, or leur brève apparition dans Blow Up, le film d'Antonioni. Preuve qu'on les considère bien comme un symptôme de l'époque. Jeff Beck finit par claquer définitivement la porte. Il trouvera un meilleur chanteur, Rod Stewart, un bassiste, Ron Wood, et cela jouera solo. À New York, en première partie de leur concert, ils découvrent un jeune guitariste de folk, Jake Holmes, dont la chanson « Dazed and Confused » s'appuie sur une ligne de basse qui s'imprègne littéralement dans le crâne. Le lendemain, c'est lui-même qui le dit, Page achète le disque. À peine 15 jours plus tard, les Yardbirds, à leur tour, jouent Dazed and Confused. Ce sera la matrice de Page, un réservoir à toutes ses audaces de guitare, dont ce fameux solo à l'archet de violon. Alors pourquoi s'embêter et payer des royalties à un jeune chanteur de folk inconnu?
I'm dazed and confused, is it stay, is it go? Give me a clue, cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat.
La musique des Yardbirds, trop expérimentale, ne fournit plus de tubes bimensuels. Leur producteur, Mickey Most, rend son tablier et revend les droits du groupe à son associé, Peter Grant. Les Yardbirds sont usés, mais avec un nouveau son en germe, auquel Page contribue pour presque la totalité. Le chanteur s'en va, le bassiste veut devenir photographe, ça fait moins de décibels sans nul doute, d'ailleurs c'est lui qui fera les photos du premier disque de Led Zeppelin. C'est la débandade. Ça ne vaut plus un clou, les Yardbirds.
Jimmy Page is coming out of the closet. So we really having a good time back in good old England. We got to fly soon. You know how it goes with Dennis. Dear Dennis, private enterprise, no artists in the country anymore. He must be dazed and confused.
Alors quand Jimmy Page et Peter Grant proposent aux trois autres de signer un papier comme quoi ils leur abandonnent le nom et l'avenir du groupe, pourquoi refuseraient-ils ? Cream, le super groupe, vient d'éclater pour incompatibilité d'humeur, là encore. Il y a une place à prendre qu'on ne veut pas laisser à Jeff Beck et son nouveau groupe. Les Yardbirds recrutent, mais qui tenterait l'aventure ? Un ancien requin de studio, un groupe de second plan qui a fini par imploser, les 5 pence de Peter Grant qui oserait les miser sur Jimmy Page. Reste que lui, Jimmy Page, avec Dazed and Confused dans la tête, a bien idée de ce qu'on pourrait peut-être quand même faire. Lundi, 6, Jimmy Page recrute. Chien noir des 70s, Led Zeppelin, groupe de réalisation Claude Guerre, Jean-François Néolier, Bruno Mourlan, Peyré Legras, texte écrit et dit par François Bon.